Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Le bonheur n'est pas dans le canapé, non, ce n'est pas le titre de la dernière vidéo d'un youtubeur à succès, mais bien le titre du premier livre du père Aymard de Langotier. À travers cet ouvrage, il donne 40 étapes pour redonner aux jeunes le goût de l'aventure humaine et spirituelle. Et il est d'ailleurs mon invité pour cette émission Vivante Église. Bonjour Père Aymard de Langotier.
Bonjour Timothée.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous revenez tout juste de Paris. Vous arrêtez pas là pour la promotion du livre.
Exactement. J'ai eu 2 jours de promotion intense, notamment dans les grèves parisiennes. Mais c'était une belle expérience. Et ensuite, là, on fait une promotion interne et qui me déplaît pas non plus.
Alors, le titre de ce livre, je le rappelle, « Le bonheur n'est pas dans le canapé », 40 jours pour devenir acteur de sa vie aux éditions Première Partie. Comment vous avez eu l'idée de ce livre, la genèse, c'est quoi ?
Alors déjà, je ne pensais jamais écrire un livre un jour. Alors c'est un peu la phrase bateau que tout écrivain sort, mais c'est vraiment vrai parce que quand j'étais au séminaire et dans mes études, les devoirs étaient souvent compliqués à rendre. Et le dernier, je pense à celui-là, de 30 pages, ça a été un long accouchement. Et donc je me suis dit, plus jamais j'écrirai, sauf mes homélies. Et donc, en sortant la vidéo avec Thibaut InShape, une éditrice de chez Première Partie, Clotilde Brossolet, est venue vers moi, il y a pile 2 ans, et m'a dit « On voudrait bosser avec vous, vous êtes le prêtre qu'il nous faut, bref, on va écrire un bouquin. » Alors j'ai d'abord ri, en pensant qu'elle s'était trompée, je me suis défaussé sur d'autres prêtres, en disant qu'ils étaient bien meilleurs que moi, qu'il n'y avait pas forcément besoin d'un bouquin tout de suite. Et puis elle m'a laissé le temps de réfléchir et elle est revenue vers moi 1 an plus tard avec une idée très précise, le bouquin que nous avons là aujourd'hui. Et ça m'a tout de suite plu, c'est-à-dire de pouvoir compartimenter 40 chapitres, de s'adresser à la jeunesse. C'est beaucoup plus, c'était beaucoup mieux pour moi en tout cas que de développer un long thème sur 300 pages.
C'est une chance pour vous alors d'écrire ce livre, vous adresser d'une autre manière à la jeunesse ?
Exactement, c'est une opportunité intéressante après avoir conquis les cœurs, je dirais, avec Thibaut InShape. C'est une autre occasion de pouvoir approfondir les différents thèmes et de l'adresser à la jeunesse de France. Une chance, je dirais pas ça comme ça, une expérience en tout cas intéressante dans la vie d'un jeune prêtre, sachant que mon ministère premier reste et restera à la paroisse.
Alors on l'a dit, ce livre il prend un format un petit peu particulier sous forme de 40 défis. Ce chiffre 40, il est important, très présent dans la Bible.
Exactement, c'est le chiffre biblique par excellence et qui traduit le long terme. C'est les 40 ans du peuple hébreu dans le désert, c'est les 40 jours de Jésus tenté aussi dans le désert. 40, c'est le temps long. Et beaucoup d'études montrent qu'il faut 40 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Donc 40, c'était mieux que 30.
Revenons un peu sur le titre. Le titre, il est fort, il est percutant. Le bonheur n'est pas dans le canapé. Déjà, quelle est votre définition du bonheur à vous ?
Ouh là là, mais j'ai jamais posé de question.
Ah, elle est difficile volontairement.
La citation est tirée du pape François qui s'adresse à la jeunesse au JMJ en 2016 à Cracovie et qui dit qu'il y a une paralysie qui guette notre jeunesse, c'est celle de rester dans son canapé et de confondre le bonheur et le canapé. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil au pape François. Ensuite, la définition du bonheur, en fait, elle se situe déjà dans le Christ. Pourquoi sortir du canapé pour aller vers quelqu'un ou vers quelque chose qu'on ne connaît pas ? Pour nous chrétiens, le bonheur est dans le Christ. Et du coup, la définition du bonheur, c'est d'être dans le Christ. C'est pas mal, non ?
C'est pas mal, je valide. 40 jours pour 40 défis. Comment on doit le lire, ce livre ? Est-ce qu'on peut l'ouvrir et prendre un défi et s'y mettre ? Ou est-ce qu'il faut vraiment respecter un sens ?
Alors, il y a une grande progression quand même qui a été travaillée. Et j'y ai passé du temps. Et donc on commence vraiment par des petits thèmes faciles comme savoir décider, savoir poser un choix, savoir dire non, reprendre sa vie en main, et jusqu'au dernier thème, dernier chapitre, dernière étape qui est désirer Dieu, vivre avec lui et évangéliser. Donc il y a une vraie progression pour celui qui lira le livre étape après étape. Mais ensuite, cette maquette Vous avez vu, il y a des images, il y a des grosses citations, c'est écrit gros, c'est en bleu, enfin bref, c'est très dynamique. Et donc ça a été voulu aussi pour que nous puissions picorer un peu les thèmes qui nous intéressent et qu'on puisse comprendre un thème qu'on lit, si on lit les 36 d'un coup, qu'on puisse le comprendre sans avoir forcément lu les précédents. Donc voilà, il y a deux manières de le lire, soit on le lit d'une seule traite, soit on le lit en picorant ça et là, ce qui nous intéresse.
Dans la première partie du livre, on a vraiment le sentiment que vous vous adressez à la jeunesse de manière générale et pas forcément à la jeunesse catholique. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une mauvaise perception de ma part ?
Non, c'était tout à fait un choix, en tout cas de permettre à ce livre au démarrage d'être accessible et de vraiment vivre ce parcours comme un développement spirituel. Il y a le développement de coach sportif, développement personnel, individuel. Là, c'est un vrai développement spirituel. On prend le lecteur par la main de où il est, comment il est, où est-ce qu'il en est. Et ensuite, on l'amène progressivement jusqu'à désirer Dieu, jusqu'à la vie de prière. Et en tout cas, on peut voir que les citations bibliques que j'utilise montent crescendo. Il y en a peu au début et ça monte petit à petit, justement pour ne pas terroriser le lecteur dès le début et que même un non-catholique, un non-initié puisse commencer les premières étapes et, si le déclic survient, continuer le livre.
Comment vous vous y êtes pris pour l'écrire, ce livre ? 5 mois de travail ?
Exactement, 5 mois de travail. Il a fallu écrire le plan, imaginer le plan. Clotilde m'a laissé très libre sur ça en disant 40 étapes et donc voilà, faites votre plan. Donc j'ai imaginé cette progression. Le plan a été validé et ensuite j'ai commencé à écrire et j'ai écrit pour le coup progressivement. Je me suis pas, j'ai pas fait les thèmes qui m'intéressaient en premier pour garder cette progression et d'ailleurs, je la trouve réussie personnellement. Ensuite, j'ai rapidement décelé dans mon entourage, parce que j'en avais déjà l'habitude avec les vidéos que je tournais, que j'écrivais, j'ai repéré 2 personnes, ma belle-sœur et une amie, Stéphanie et Perrine, qui vont me tuer parce que je donne leur nom à l'antenne, mais qui m'ont vraiment aidé dans la rédaction de ce livre. Le processus était simple, c'est-à-dire que j'écrivais, parfois de nuit, ça m'arrivait aussi, pour trouver du temps. Et ensuite, je faisais valider à Stéphanie qui corrigeait le fond, la forme, l'argumentation, la mise en place des différents arguments. Et quand c'était nul, elle me le disait clairement et je réécrivais et elle m'aidait à réécrire aussi. Et ensuite, Perrine validait la fin avec d'autres remarques tout aussi judicieuses. Et les deux faisaient la paire. Et donc, quand c'était mauvais, j'avais un retour de...
Vous vexiez pas ?
Non, je ne suis pas facilement vexable. En tout cas, sur ce travail-là, je leur demandais justement une bienveillance, une exigence. Et voilà, et comme je sais qu'elles appréciaient faire ce travail, je leur ai dédié le livre en tout cas.
Ce livre fait quand même 250 pages, ça a demandé beaucoup de travail. Justement, les thématiques que vous abordez, où vous les avez trouvées ?
J'y ai trouvé assez naturellement. Alors j'ai pas mal feuilleté de bouquins de développement personnel pour voir un peu quelles étaient les thématiques que l'on abordait quand... c'est marrant, tous les titres, c'est « Trouvons le bonheur »,« 10 étapes pour réussir sa vie »,« Reprendre sa vie en main », donc tout ce que j'ai mis, j'ai pas inventé la poudre. Et donc je me suis inspiré de tout ça dans les différentes lectures et après je l'ai mis à ma sauce avec mon écriture, avec ce que je suis et avec évidemment une vision chrétienne derrière. Et donc c'est allé assez naturellement. Et je précise que les 250 pages sont dues à la maquette. Vous voyez, il y a beaucoup d'images. Il y a un choix qui a été fait de mettre par exemple tous les titres à gauche. Donc du coup, quand il y a 3 pages, on met une page en plus. Enfin bref, sinon... En écriture simple, le livre aurait fait 125 pages.
Oui, on va rassurer les auditeurs, ça se lit relativement facilement. Justement, comment on fait pour écrire un livre sur des thématiques qui ont déjà été traitées des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de fois ?
Eh bien, on apporte sa touche, hein, mais c'est un peu comme l'Évangile, en fait. L'Évangile a déjà été commenté des milliers et des milliers de fois, et on le commentera, nous, dans notre propre vie, des centaines de fois. Et donc, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à cet instant ? Et donc c'était qu'est-ce que le Seigneur veut dire à notre jeunesse à cet instant en passant par ma plume. Et donc voilà, d'apporter quelque chose de nouveau. Encore une fois, il y a des thèmes qui ont largement été abordés dans différents livres. Hein. Je pense notamment à l'abbé Grosjean ou à d'autres, le père Amar. Mais voilà, là, ils sont traités de manière à la fois profonde, en même temps simple, hein, c'est 3-4 pages par thème, par étape, et donc voilà, ça permet de survoler, d'aborder un peu le fond, de survoler en même temps, et après, voilà, d'avoir une progression, et de traiter un petit peu l'ensemble de comment trouver le bonheur.
Au dos du livre, vous dites que c'est un livre à offrir à tous les jeunes dès 15 ans. C'est un livre qui s'adresse à la jeunesse catholique.
Exactement, c'est un livre qui s'adresse à la jeunesse, on disait tout à l'heure, pas forcément que catholique, mais en tout cas dès 15 ans, parce que en dessous, je pense que c'est un peu... on se pose pas forcément ces questions-là, et les exemples que je prends sont à partir de 15 ans. Dans le fait de prendre sa vie en main, dans le fait d'être autonome, et voilà, donc un adolescent en dessous, je pense, ne comprendrait pas ou saisirait pas tout. Mais évidemment, c'est comme ensuite quand on s'adresse aux enfants lors d'une homélie à la messe, on s'adresse aux enfants, mais les parents écoutent. Et les parents doivent écouter. Et donc quand on dit à partir de 15 ans, c'est parents, lisez-le et ensuite donnez-le à vos enfants.
Dans le titre de votre livre, 40 jours pour devenir acteur de sa vie. Je vais être un peu provocant avec ma prochaine question. Pourquoi acteur de sa vie? Pourquoi devenir acteur de sa vie et non pas redevenir acteur de sa vie? C'est-à-dire que les jeunes, dès 15 ans, ils n'ont pas encore été acteurs de leur vie, selon vous?
C'était une bonne question que j'ai posée à mon éditrice. Pour moi, c'était aussi le sous-titre « Je voulais redevenir acteur de sa vie ». L'éditrice a dit « Non, c'est devenir » parce que justement, à 15 ans, on n'est peut-être pas encore devenu tout à fait acteur de sa vie. Et redevenir aurait signifié que nous aurions eu une première vie comme échec. Et donc devenir, c'était plus valorisant dans le fait de le lire et de se dire, bah voilà, ma vie n'est pas forcément parfaite ni médiocre, mais en tout cas, je peux devenir acteur de ma vie en prenant les étapes les unes après les autres.
Au fur et à mesure de ce livre, vous proposez des défis à relever. Est-ce que déjà vous les avez, vous, relevé ces défis?
Les défis étaient la partie la plus délicate pour moi à écrire parce que j'étais plus à l'aise dans le développement de l'idée que dans le défi. Mais en tout cas, j'ai veillé personnellement à ce que ces défis, je puisse les faire. C'est-à-dire que j'ai écrit des défis que j'aurais aimé ou que j'aime réaliser. Ça n'a pas été évident parce qu'il en faut 40 et parfois dans la relecture je me suis rendu compte qu'il y avait des redondances et qu'on n'a pas forcément 40 idées nouvelles pour mettre en place l'étape à réaliser, mais en tout cas ces défis sont réalisables par tout le monde à partir de 15 ans et j'ai fait attention à ce que je puisse moi les réaliser et généralement c'est bon signe quand on peut les réaliser soi-même.
C'était vraiment votre volonté ou celle de l'éditrice, première partie je le rappelle, de lier la théorie avec le développement d'une idée à un défi, donc la pratique?
Exactement, c'était vraiment son idée en se disant, on l'adresse à la jeunesse. Notre jeunesse lit de moins en moins de livres et donc si on veut l'attirer, il faut une maquette dynamique, de belles couleurs. Ça c'est réussi je trouve. Et ensuite, il faut une espèce de mise en route pour que ce qu'on vient de lire théoriquement, je puisse l'appliquer dans ma journée. Et de fait, les défis sont tous réalisés de la même manière. C'est le matin, je pense à ceci ou je réfléchis à cela que je mettrai en place dans la journée. Et le soir, je réfléchis, je regarde quelles sont mes émotions, je note si besoin et ainsi de suite.
À côté de chaque page de défi, il y a une citation, donc il y en a 40. Ces citations, vous les avez trouvées où? Et l'idée, c'est de permettre que chaque citation mûrisse dans la tête de chaque jeune.
Exactement. Alors, sur l'origine des citations, il y a 1000 sites internet bien faits qui répertorient toutes les citations, quelques livres aussi. Donc les citations, ça peut être un souci, voire même j'en avais 2-3 par idée. J'ai fait attention à ce qu'elle puisse à chaque fois coller avec le thème et qu'en lisant la citation et le titre, on puisse se dire « Ah oui, j'ai vu l'idée à développer ». Et ensuite, on aime bien les citations dans le développement personnel notamment. Et donc là, dans le développement spirituel, les citations sont toujours bonnes conseillères. Et hier soir, j'offrais ce livre à un ami que j'ai depuis le collège et que je prépare au mariage. Et il m'a fait le défi de m'en citer quelques-unes et je vais retrouver l'auteur. Et j'ai été mauvais, mauvais, mauvais. Mais voilà, en tout cas, toutes ces citations ont été mûrement réfléchies. Et j'aime beaucoup ce proverbe chinois, Un choix posé vaut mieux que trois possibles rêvés. Mmh. C'est pas mal, non?
C'est pas mal. Père et Marie-Delon Gauthier, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. On revient dans quelques instants. On écoute « Laissons-nous transformer ».
Présence à foi 100.2. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Aymar de Langotier pour parler de la sortie de son premier livre, Le Bonheur n'est pas dans le canapé, livre disponible depuis le 23 mars aux éditions Première Partie. Mon père, revenons un petit peu sur ce titre fort, percutant, Le Bonheur n'est pas dans le canapé. Vous vous êtes simplement inspiré de ce que disait le pape François, hospitalisé à qui on pense bien évidemment, c'est le fruit aussi de votre réflexion en disant ben, les jeunes en fait ils restent toute la journée sur leur canapé quand ils sont pas à l'école et ils attendent que tout leur tombe tout cru dans la bouche.
Il y a, quand le pape François s'adresse à la jeunesse du monde entier en 2016 en disant le bonheur n'est pas dans le canapé, il y a un constat qui est assez lucide et assez clair, hein, de dire que, encore on était avant Covid, que ça a toujours été une tendance de la jeunesse d'attendre qu'on la prenne par la main et qu'on la fasse grandir pour qu'elle devienne adulte. En France, dans le monde entier, il y a eu le Covid en plus. Et donc, il y a eu un traumatisme que l'on constate, mais dans tous les échelons de la société, qui est de dire que pendant 2 ans, 3 ans, les 15-20 ans ont raté, enfin en tout cas, on n'a pas pu vivre quelque chose de social, quelque chose de communautaire, quelque chose d'un approfondissement de leur connaissance, avant de parler de la foi, de leur connaissance de qui ils sont. Et donc, voilà, ce livre, en tout cas la genèse de ce livre, c'est ça, s'adresser à cette génération-là. Et ensuite, aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que avec le fait que les réseaux sociaux soient très instantanés, et une espèce d'ubérisation de toute la société, on attend qu'il y ait tout de suite, une forme d'immédiateté, et si je ne l'ai pas, voilà, je suis un frustré. Et du coup, voilà, je fais un effort 2 jours, et comme je n'y arrive pas, je suis naze, donc autant rester dans mon canapé et à scroller les réseaux sociaux. Une forme d'immédiateté, et on a perdu ce sens de la transmission, du temps long, du fait de pouvoir demander conseil. Donc voilà, ce petit livre offre quelques petites billes dans ce sens-là.
Vous dites on l'a perdu, le Covid a joué, mais il y a autre chose aussi, il n'y a pas uniquement la crise sanitaire.
Non, il n'y a pas que la crise sanitaire, il y a une crise de la transmission que l'on retrouve dans l'éducation nationale, que l'on retrouve évidemment dans l'Église, où il y a une génération entière qui n'a rien ou qui n'a pas reçu grand-chose. Et en fait, pour nous, c'est du pain béni aussi, hein, c'est-à-dire que, pardon d'utiliser cette expression, mais ça veut dire que cette génération qui arrive n'est même plus anticléricale ou anti-quelque chose, elle n'est rien. C'est un champ en jachère, et donc il va falloir tondre, labourer et ressemer ce champ-là, mais il n'y aura pas de résistance parce que ces jeunes-là n'ont rien reçu.
Mais le défi est immense.
Ah, la moisson est abondante, le Seigneur le disait déjà il y a 2000 ans. Donc le défi est immense, mais on est là pour relever les manches et puis y aller. Il ne faut pas rêver d'un Eldorado ou d'une époque glorieuse ou d'un futur plus convaincant. Le Seigneur nous a dit « c'est maintenant ». Une citation de Saint François de Sales, « Fleuris là où Dieu t'a planté ». C'est maintenant que tu dois fleurir, c'était pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant.
Vous disiez tout à l'heure, et c'est justement l'un des chapitres, je crois le chapitre 10 de votre livre, il faut que les jeunes retrouvent le goût de l'effort, le goût du travail. Qu'est-ce que vous avez voulu dire là-dedans ?
C'est ce côté de l'immédiateté. Je veux tout de suite ou j'ai tout de suite. J'achète un truc sur Amazon, je l'ai quasiment dans la journée ou le lendemain. Et donc, on a plus cette sensation, cette présence d'esprit de dire « Eh bien, peut-être que je dois mériter ce que je veux et que ça prend peut-être un peu plus de temps qu'une journée ». Et donc les défis sont là aussi pour ça, pour rappeler que voilà, les habitudes ne se changent pas en 2 jours, le temps long, le carême c'est 40 jours, voilà, pour changer un pli il faut parfois plusieurs répétitions, plusieurs échecs, mais peu importe la chute tant que c'est en montant. Et je ne sais plus qui me faisait remarquer qu'en montagne on se fait moins mal en tombant en montant qu'en tombant en descendant. Et donc c'est de donner aux jeunes ce goût de l'effort, ce goût du dépassement de soi pour pouvoir trouver leur voie, se connaître mieux, se connaître en société, en vie communautaire, développer de belles amitiés pour ensuite chercher le bonheur dans le Seigneur.
Vous disiez les jeunes veulent tout de suite. Est-ce que vous le constatez aussi dans la vie de foi de ces jeunes-là? Parce que on sait, la sainteté, c'est un long chemin, tortueux. Est-ce que le fait que les jeunes veuillent tout de suite aujourd'hui, ça complique des choses dans leur cheminement personnel vers le Seigneur?
Évidemment, ça complique les choses, mais en même temps, il faut savoir accompagner cette perte d'attention. Tous les professeurs et les maîtresses le disent, le taux de concentration d'un enfant ou d'un jeune adulte diminue. Je crois que je disais que c'était de 47 secondes maintenant, avant qu'on pense à autre chose.
C'est court, hein.
C'est très court, et moi le premier, hein, quand je suis sur mon ordi, il y a un moment donné où il faut que j'arrête, parce que sinon je fais tout sauf ce que je dois faire. Et donc du coup, cette immédiateté est à retravailler pour leur montrer que nous sommes des êtres de médiation, nous ne sommes pas des plantes, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des animaux qui ont un instinct naturel inné qui leur arrive à la naissance. Et nous, nous avons besoin de médiation, nous avons besoin de parents, d'éducateurs, de parrains, de marraines, de prêtres présents sur notre route pour pouvoir développer toutes les aspects de notre personnalité. Et pour nous chrétiens, de pouvoir les unifier évidemment autour du Christ. Et donc, voilà, ils sont en train, la jeunesse, enfin, les jeunes sont en train de construire leur vie. Et donc, plus on les aide et on leur montre qu'ils sont capables de le faire, eh bien plus ils pourront être autonomes et libres de choisir le Christ.
On l'a dit tout à l'heure, on a le sentiment que les préoccupations de nos jeunes ont changé depuis la crise sanitaire, que les jeunes sont plus renfermés sur eux-mêmes et surtout ils ont peur de l'avenir.
C'est vrai que lorsque j'interviens auprès des étudiants ou des lycéens, y a une peur de l'avenir, une éco-anxiété, on appellera ça comme on veut. En tout cas, ils ne se projettent pas du tout dans le temps long. Je pense notamment dans les questions de couple. Et quand on leur dit, il y a des couples, leur témoignent que ça fait 10, 20, 30 ans qu'ils sont mariés. Ou quand moi, je témoigne de ma vocation, ils disent, mais dans 10 ans, qu'est-ce que vous faites, quoi ? C'est pas possible, le temps long, ça n'existe plus. Et ça me fait un peu peur, quand même. Ça me fait un peu peur de me dire que il n'y a plus de notion de temps long. Et donc, voilà, je prends les plaisirs comme ils arrivent, les opportunités comme elles arrivent. Et dans cette... dans ce mot de la tolérance là, qu'on entend à tort et à travers aujourd'hui, mais en fait ça veut dire de l'indifférence. Donc tant que tu es heureux, moi ça me va. Bah oui, mais dans ce cas-là on n'est plus capable de se dire les choses et on n'est plus capable d'avoir une parole exigeante, parce qu'on te dira c'est ta vérité, c'est pas la mienne, donc ce que tu me dis je le reçois pas. Oui mon coco, mais bon j'étais jeune à ta place, j'étais jeune avant toi et t'as le droit d'entendre aussi ce que j'ai à te dire. Et donc voilà, mais je suis pas inquiet. Ça va demander encore plus de travail pour nous, mais ça tombe bien parce que notre travail, notre boulot de prêtre, c'est de sauver les âmes. Donc que ce soit celle-là, de cette génération-là ou d'autres, on doit quand même sauver les âmes.
Et justement, alors c'est aux prêtres de donner confiance aux jeunes pour l'avenir.
Aux prêtres, mais pas que. J'aime bien pouvoir placer sur la route des jeunes, d'autres personnes qui ne sont pas des prêtres, des jeunes couples ou même des anciens, notamment de la paroisse, qui puissent avoir une transmission de génération. Les prêtres n'ont pas la science exacte, ils n'ont pas le savoir, et on ne peut pas non plus tout faire. Mais en tout cas, voilà, de pouvoir que les jeunes puissent retrouver une ambiance familiale dans ce qu'ils vivent. Et je pense au patronage, on a vu l'émission la dernière fois, le côté intergénérationnel est très important pour montrer aux enfants que tout le monde s'implique dans son éducation et qu'il pourra avoir d'autres relais que ses parents, où il n'est pas seul pour apprendre à grandir, et on ne grandit pas uniquement qu'avec ses parents.
Vous disiez, le boulot d'un prêtre, c'est de sauver les âmes. Toutes les âmes sont-elles sauvables ? Où il y a des causes perdues aussi.
Ah ben ça, toutes les âmes sont sauvables, évidemment. Dieu est miséricordieux, et certaines réflexions théologiques ont dit que Judas, peut-être, n'était pas en enfer, et qu'il était peut-être auprès du Seigneur aujourd'hui. Donc, que l'enfer existe, oui, qu'il y ait du monde à l'intérieur, on ne sait pas. Et donc, tout est sauvable, jusqu'à la dernière minute, on peut se convertir. Mais c'est ce que je dis à mes jeunes. On peut se convertir jusqu'à la dernière minute, or on ne connaît pas sa dernière minute. Donc, je vous conseille de vous convertir maintenant, et comme ça, on mettra les choses au fur et à mesure. Et je ne sais plus quel saint disait, si le Seigneur reprend ta vie demain, qu'est-ce que tu ferais ? Et lui disait, je ne changerai rien. Parce qu'il était prêt, et parce qu'il n'avait rien à faire de plus que vivre sa vie au temps présent et avec le Seigneur.
S'il y avait une chose, une idée que vous voudriez qu'un jeune garde de ce livre, ça serait laquelle ?
J'en aurais deux à travers des citations, notamment, j'en ai mis 40. La première me vient du père Simon d'Artigues, le curé de la cathédrale, qui disait lors d'une homélie, « Il vaut mieux viser la perfection et être juste en dessous que de viser la médiocrité et d'être en plein dedans. » Voilà, en gros, n'ayez pas peur d'avoir un rêve, un idéal, de poser vos choix petit à petit, de monter cette montagne, plutôt que d'attendre dans le canapé en se disant « bon, ma vie n'est pas si terrible que ça, je m'en sors quand même ». Et ensuite, une autre idée de saint Augustin qui déjà, en son temps, disait « soyez bons et les temps seront bons, soyez saints et les temps seront saints ». Tout simplement.
Au début de votre livre, dans l'introduction, vous essayez de donner des raisons aux jeunes de sortir de leur zone de confort. Pour les jeunes qui nous écoutent, pourquoi ils devraient sortir de leur zone de confort et se lancer dans les défis que vous nous lancez à travers ce livre ?
Sortir de sa zone de confort, c'est permettre de changer les habitudes et permettre de se convertir. C'est le terme chrétien, c'est la conversion. C'est le principe et tout ce que prêchent les prêtres pendant le carême pour pouvoir être un peu mieux, un peu meilleur, un peu plus avec le Christ à la fin du carême lors de la résurrection. Et donc, pourquoi sortir de sa zone de confort ? De temps en temps, on ne demande pas de changer du tout au tout. C'est de permettre de pouvoir aller explorer d'autres pistes qu'on n'a pas forcément, où on n'a pas forcément l'habitude d'aller, permettre de ne pas s'endormir dans sa routine et d'être dans un espèce de cycle de médiocrité. Même au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau amical, on a toujours besoin de sortir un peu de sa zone de confort, on a toujours besoin de prendre de nouvelles habitudes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être ouvert d'esprit, pour pouvoir vivre aussi dans notre monde. Et donc je pense que plus on l'apprend jeune, mieux ça se passera plus tard. Parce que parfois, la zone de confort, on nous oblige à la quitter quand on a 30, 40 ans, et là c'est compliqué.
Et pourquoi c'est si dur de sortir de sa zone de confort ?
Parce qu'on aime les habitudes.
Mmh. On aime ça les nous
habitudes.
Rassure.
Exactement, les habitudes nous rassurent. Et depuis tout petit, on nous a appris à avoir des habitudes. Alors les habitudes sont bonnes, justement, mais il est bon de pouvoir explorer d'autres habitudes. Sinon, à force de ne pas les entretenir, à force de ne pas apprendre à exercer nos vertus, notre charisme, ce pourquoi le Seigneur nous a mis sur terre, on ne développera qu'un talent alors qu'on en a quatre. Quoi.
L'objectif de ce livre, c'est de transformer les cœurs. Ou c'est trop ambitieux ?
Exactement, c'est de transformer les cœurs, c'est une très bonne idée. C'est de proposer un déclic aux jeunes qui s'enfoncent un peu dans la médiocrité peut-être, ou qui a besoin d'avoir une lecture qui puisse le stimuler. Donc si ce livre est un déclic, la mission sera réussie. Et surtout, encore une fois, c'est pour la citation de saint Augustin, hein, « Soyez bons, les temps seront bons, soyez saints et les temps seront saints ». Donc on ne peut pas rêver à un monde idéal si on ne s'implique pas soi-même. Et j'ai transformé cette citation en « Soyons les saints dont l'Église a besoin ».
Mais ça fait peur de se lancer dans ces défis. Peur de l'échec aussi, et peur d'être confronté à sa propre personne, à ses fragilités, à ses faiblesses.
Exactement, mais ça justement j'en parle tout au long des chapitres, en disant que on a tout à découvrir de ses faiblesses, à les accepter, à accepter celles des autres. La perfection Instagram, TikTok et des réseaux sociaux n'existe pas. Et quand on poste une photo sur Instagram, évidemment qu'on a gommé tous les aspérités et tous les mauvais moments de sa vie. On ne poste pas quand on est au fond d'une dépression. Et donc ça, c'est un peu l'image qu'on nous renvoie. Et donc il faut toujours être au top, toujours être parfait, montrer les bons côtés. Mais c'est pas ça la vie. Et tôt ou tard, si on apprend à être, si on montre que c'est son bon côté, on finira par exploser parce qu'on ne tient pas. Et justement, c'est de montrer que on peut aussi composer avec des échecs, avec ses faiblesses, avec ses blessures, et apprendre à vivre avec et à les sublimer pour le Seigneur.
Père Emmanuel Gauthier, on va faire une deuxième pause musicale dans cette émission. On écoute Éternel et ta miséricorde.
Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, cachons loin de toi, mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous, éternel et ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur. Transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Tu as porté nos péchés, Seigneur.
Présence à Saint-Cirq-la-Popie, 92.5.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Aymar de Langotier pour parler de la sortie de son premier livre, Le Bonheur n'est pas dans le canapé, un livre disponible dans de nombreuses librairies, notamment à la librairie Cato, à la FNAC ou encore à Cultura, livre qui a été édité le 23 mars dernier, ça fait une petite semaine, aux éditions Première Partie. Mon père, pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, ce livre il s'articule en 40 défis, 40 étapes. Est-ce qu'il y a déjà une étape que vous avez préféré écrire par rapport aux autres?
Il y en a quelques-unes de fait qui m'ont demandé assez peu de temps à écrire. Je pense à prendre soin de son corps ou trouver sa place dans le monde qui ont été faciles pour moi à écrire. D'autres ont été plus compliquées parce qu'il a fallu les réécrire plusieurs fois, mais je ne vous dirai pas lesquelles. parce qu'à la fin, au final, elles sont toutes bonnes.
Et justement, est-ce qu'il y a quelles sont les difficultés que vous avez éprouvées lors de la rédaction de ce livre?
La première, c'est de trouver du temps. Trouver du temps et de respecter les échéances que je m'étais fixé. Moi, j'avais l'échéance finale de rendre les épreuves à partir de novembre. Et donc, je savais qu'il fallait avancer, que derrière, il y avait un petit temps de relecture de Stéphanie et Perrine, mes deux relectrices qui étaient dans une petite équipe. Et donc, de trouver du temps. Et j'ai parfois écrit la nuit, j'avais jamais fait ça, mais c'était assez efficace. Je renouvellerai pas l'opération trop de fois non plus. Notamment cet été, j'ai beaucoup écrit pendant la canicule là, de 5 à 7 sur ma terrasse à la fraîche, avant de commencer la journée. Et donc, trouver du temps. Et ensuite, toujours pouvoir s'adresser à la jeunesse et ne pas se tromper de cible. Et parfois, j'avais tendance à faire une homélie sur une idée. Et ce n'est pas le but, c'est... C'est à la longueur d'une homélie, mais ce n'est pas un format d'homélie. Et donc, c'est là où il y a eu quelques petits ajustements. Et ensuite, peut-être la manière de traiter certains sujets n'était pas la bonne, en tout cas au départ. Mais petit à petit, à force de travailler, on a pu trouver l'angle d'attaque pour aborder tel ou tel thème. Et à la fin, je suis heureux de tous les thèmes abordés, ouais.
Justement, un des thèmes qui a été facile à écrire pour vous, vous le disiez, prendre soin de son corps. Pour notre jeunesse qui est très fixée sur l'apparence, avec les filtres, sur les réseaux sociaux notamment, ça prend tout son sens, cette thématique.
Exactement. Et d'ailleurs, le défi de prendre soin de son corps... C'est on laisse tomber les applications et je me concentre sur le sommeil notamment en disant on laisse tomber tout ce qui est ASMR et autres vidéos de relaxation le soir avant de s'endormir, de mesurer la qualité de son sommeil, bref, on laisse tomber, on savait très bien dormir avant nos téléphones et on saura encore très bien dormir après nos téléphones. Et donc savoir se déconnecter sur des choses essentielles qu'on a oubliées, savoir se détendre aussi, ça c'est un autre thème. Prendre de vrais temps de détente et non regarder une heure de fil d'actu sur Instagram ou TikTok, ce n'est pas se détendre. Se détendre, c'est savoir écouter de la musique, de la belle musique, dans son canapé, à l'ancienne, comme ses grands-parents, savoir regarder un beau paysage, savoir prendre un livre et le lire, savoir aussi prier, faire le vide de sa tête, dans sa tête, et puis se concentrer sur quelque chose de palpable, une petite bougie, une icône, enfin bref, ça c'est se détendre. Et on vit toujours à mille à l'heure en disant j'ai pas le temps. Ben, en fait si, on a le temps, il y a 24 heures dans une journée, en fait il faut peut-être regarder le temps qu'on passe sur son téléphone, et moi, la première fois que j'ai regardé le temps que je passais sur mon téléphone, j'étais un peu désarçonné, et donc maintenant j'ai installé un limitateur d'application, sur les principales pour me dire que une journée peut-être bien remplie, mais en même temps on la remplit avec ce que l'on souhaite remplir. Donc où sont mes priorités, qu'est-ce que je dois faire, et ensuite j'avance. Et donc prendre soin de son corps, c'est retrouver le goût de l'effort dont on parlait tout à l'heure, savoir faire du sport, même si je sais que notre jeunesse est, je sais plus quel est le terme qui dit qu'elle est addict au sport, vaut mieux ça que d'être en taux d'obésité comme aux États-Unis par exemple, un peu trop élevé. Mais savoir prendre soin de toutes les parties de son corps et pas uniquement devant sa glace ou à la salle de muscu, et savoir aussi écouter son corps, prendre le temps de ralentir un peu plus, d'être présent avec les autres et d'avancer.
Une autre étape, trouver sa place dans le monde. C'est compliqué pour nos jeunes de trouver leur place dans un monde parce qu'ils sont bloqués entre d'un côté un monde virtuel généré par le développement du numérique, les téléphones, et de l'autre côté un monde où ils ne voient pas d'avenir.
Exactement, sachant que tout le marketing actuel est basé pour des jeunes entre 15 et 20 ans. Et on le voit bien, hein, toutes les émissions de radio, toutes les pubs, c'est retrouver une éternelle jeunesse. Et on n'accepte jamais d'avoir des rides, on n'accepte jamais d'avoir des cheveux blancs, des cheveux qui tombent. Et on n'accepte jamais d'idéaliser aussi le fait que, à 40 ans, on puisse se sentir bien dans sa peau et on a le droit de se sentir bien dans sa peau. Non, on ramène toujours à autour des 15-20 ans, l'âge idéal. les 15-20 ans ont des modèles à suivre et qui sont plus vieux qu'eux, et donc ils ne profitent pas de leur âge. Et quand on est plus vieux, on dit « j'aurais tellement aimé rester à 15-20 ans ». Donc il y a cette ambivalence de notre jeunesse où ils n'arrivent pas forcément à trouver leur place ni à se sentir heureux là où ils sont. Et c'est le danger de la fuite en avant, de dire j'aurai le temps quand je serai marié, j'aurai le temps où je ferai ça quand j'aurai tant d'enfants, je ferai ça quand je serai à la retraite, je ferai ça. Non, mais en fait, à force de reporter, on le fera jamais. Mmh. Donc non, faisons les choses, vivons de nos passions, de ce qui nous motive, de nos moteurs, et puis avançons et profitons du temps qui nous est donné, des grâces qui nous sont données pour avancer.
Dans ce livre, vous invitez aussi les jeunes à la sainteté. Alors la sainteté, c'est un grand mot, hein, ça fait souvent peur. Comment pouvons-nous tous, jeunes comme moins jeunes, tendre vers un chemin de sainteté ?
Bien, on tendra vers un chemin de sainteté quand on approfondira sa vie intérieure. Et sa vie intérieure, on en parlait tout à l'heure, est incompatible avec le bruit extérieur, avec toutes les images dont on s'abreuve en permanence sur nos ordi ou nos écrans. La vie intérieure se nourrit de silence, se nourrit de calme, se nourrit de temps de qualité que l'on peut passer avec ses proches dans l'instant présent. Et donc la sainteté se nourrira de cette vie intérieure, de cette relation que j'ai avec Jésus. C'est la question en fait que Jésus pose à l'aveugle Bartimée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Eh bien Seigneur, que je sois saint. Et quand on demande la sainteté, le Seigneur nous la donne. La sainteté, ce n'est pas être parfait, la sainteté, ce n'est pas finir sur une niche dans une église à la place d'une statue en plâtre du 19e. La sainteté, c'est trouver sa place dans la vie, dans notre société, être heureux, cultiver la paix, la joie, la demander au Seigneur, et puis avancer avec ce que nous sommes, nos échecs, nos joies, nos difficultés, avec tous les talents que le Seigneur nous a donnés. Et voilà, et accepter que nous ne maîtrisons pas tout. Et voilà, notre place dans le monde dépendra de l'endroit où ne dépend pas de l'endroit où nous nous trouvons, de ce que nous faisons, mais dépend de la profondeur de notre vie spirituelle.
Alors, si vous aviez 3 conseils pour arriver à cette sainteté. Alors, il y en a 40 dans le livre, mais si vous en avez quelques-uns à donner à nos auditeurs avant qu'ils puissent se procurer ce livre, je le rappelle, qui est accessible à la FNAC, à Cultura ou dans plusieurs librairies, notamment catholiques. Livre aux éditions première partie, je le rappelle. Père et Marlon Gauthier, vos 3 conseils alors pour être saint.
Alors, les 3 conseils pour être saint, vivre le temps présent, accepter les talents que le Seigneur me donne, et puis rechercher le Christ.
Et on terminera sur ces 3 belles résolutions. Merci beaucoup, Père Aymar de Langotier.
Merci à vous.
Merci à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivante Église. Si vous souhaitez vous procurer ce livre, Le Bonheur n'est pas dans le canapé, je le rappelle, disponible à la FNAC, à Cultura, sur Internet, sur le site des éditions Première Partie ou dans de nombreuses librairies. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.